Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Tandis que la réforme des institutions sera présentée cette semaine, l'Élysée a confirmé vendredi que le nombre de parlementaires serait réduit de 30%, un seuil toujours en cours de discussion d'après l'entourage de Gérard Larcher, le président du Sénat. Réduire le nombre de députés et de sénateurs, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Bonjour Dominique Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit constitutionnel à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, diminuer le nombre de parlementaires, est-ce une bonne chose ?
Alors, c'est une bonne chose, de mon point de vue, évidemment, dans la mesure où ça permet de rendre le Parlement plus présent, plus efficace, dans la mesure où on travaille mieux à moins qu'à plusieurs. Et il ne faut pas oublier que depuis 2017, les parlementaires ne peuvent plus cumuler leur mandat avec un mandat de maire ou de président d'exécutif, et que par conséquent, ils vont être désormais présents, ou ils sont désormais présents à l'Assemblée nationale, au Sénat, toute la semaine. Et par conséquent, ils vont pouvoir, avec les nouveaux moyens dont ils vont disposer, puisqu'ils seront moins nombreux, sans diminution du budget de l'Assemblée nationale et du Sénat, exercer mieux leur fonction de manière permanente, qui est de contrôler l'action du gouvernement et de voter la loi.
Alors les sénateurs, des sénateurs et des députés ont malgré tout rétorqué qu'il s'agissait d'une mesure un peu démagogique, qu'on avait là une sorte de mesure qui ne servirait pas à grand-chose, sinon à contenter de bas instincts. Qu'en pensez-vous, Dominique Rousseau ?
Non, bah évidemment, je veux dire, la polémique et la controverse politique est toujours possible et les parlementaires ne sont jamais contents lorsqu'on réduit leur nombre, mais il s'agit au contraire de revaloriser la fonction du Parlement. Donc ce n'est pas une mesure populiste, c'est une mesure qui vise à assurer à la représentation, donc aux députés, aux représentants de la nation, de meilleurs moyens d'exercer le contrôle de l'action du gouvernement et de meilleurs moyens d'exercer leur fonction de vote de la loi et surtout d'amender les lois. Ce qui serait dangereux, c'est qu'on touche au droit d'amendement. Mmh. Le droit d'amendement est un droit individuel de chaque parlementaire. Ça serait dangereux, ça serait abaisser le pouvoir du Parlement. Mais réduire le nombre de parlementaires n'est pas une mesure démagogique, c'est une mesure qui permet de mieux assurer le fonctionnement du Parlement.
Et alors comment décider qui doit être supprimer, si j'ose dire, quels sont les députés ou les sénateurs qui ne seront pas à remplacer?
Alors, ça se décide par une loi organique. Hein. La Constitution mm-hmm. prévoit que le nombre de députés est fixé par une loi organique. La Constitution fixe un plafond, hein, 577 par exemple pour l'Assemblée nationale, et renvoie à une loi organique la responsabilité de fixer le nombre des parlementaires. Mmh. La loi organique, c'est une loi qui porte sur l'organisation des pouvoirs publics. Hein. Mmh. La Constitution pose le principe et renvoie à une loi organique la mise en œuvre de ce principe. C'est vrai, par exemple, pour le statut de la magistrature, le principe d'indépendance est posé, mais c'est une loi organique qui l'organise. La particularité d'une loi organique, si vous voulez, par rapport à une loi ordinaire, c'est que, premièrement, elle doit être adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée, alors que les lois ordinaires, c'est la majorité simple, là, il faut la majorité absolue, et deuxièmement, elles ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil constitutionnel ait déclaré leur conformité à la Constitution. Donc là, pour une loi organique qui diminuera le nombre des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel aura à dire si cette diminution ne porte pas atteinte à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction parlementaire.
Et oui, d'autant, Dominique Rousseau, vous qui êtes constitutionnaliste, qu'on peut évidemment prêter toutes les arrière-pensées à cette réforme. On peut considérer, par exemple, qu'elle va donner lieu à des redécoupages qui pourraient ne pas être défavorables à la majorité présidentielle.
Oui, sauf que le découpage électoral est soumis à l'avis public. L'avis est public d'une commission indépendante composée de démographes, de géographes, de juristes, de politiciens, de statisticiens mmh. qui ont la responsabilité de vérifier que le découpage électoral prévu respecte d'abord un critère d'équité démographique, et puis un critère de cohérence territoriale. Donc la loi ne pourra pas faire n'importe quoi et privilégier telle ou telle partie, puisque le projet de découpage sera soumis donc à cette commission qui rendra un avis public, et l'avis étant public, il pourra évidemment être discuté, critiqué, et le gouvernement ne pourra pas travailler à l'abri de l'opinion publique, à l'abri des partis politiques, à l'abri de la presse, à l'abri de l'opinion. Son travail sera soumis, là aussi, au contrôle des différentes instances.
Donc ça diffère des redécoupages locaux qui, à chaque fois, sont entourés d'un parfum de suspicion.
Oui, c'est bien pour ça que la Constitution a prévu cette commission indépendante, il faut bien préciser, pour éviter justement ce qu'on appelait autrefois le charcutage électoral. Donc il y a là une garantie que le découpage électoral sera fait de manière, disons, la moins injuste possible par rapport aux partis politiques, puis cette commission devra respecter un principe qui est celui du pluralisme des partis politiques, du pluralisme des opinions, et donc il faudra que ce découpage respecte ce principe constitutionnel.
Et alors, si je vous ai bien suivi, Dominique Rousseau, il va falloir que les députés et les sénateurs acceptent eux-mêmes de voter la réduction donc de leur nombre. Et oui. Comment vont-ils accepter de se tirer une balle dans le pied, de diminuer le nombre de leurs collègues ?
Ah, écoutez, ça c'est la responsabilité des parlementaires. Les parlementaires parfois peuvent aussi prendre des lois qui ne favorisent pas leur propre métier, hein, si j'ose dire. Et il faut pas non plus négliger le fait que si les parlementaires, pour une raison ou pour une autre, ne s'engageait pas dans cette réforme, le président de la République peut toujours utiliser l'article 11, puisque l'article 11 est fait notamment pour soumettre au référendum des lois portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Autant une révision de la Constitution ne peut pas se faire par l'article 11, c'est-à-dire le référendum direct sans passer par la case Assemblée nationale et Sénat, autant une loi organique, elle, peut être adoptée directement par référendum. Mais quand on connaît la composition notamment de l'Assemblée nationale, avec une majorité de députés issus du mouvement En Marche, on peut supposer qu'au moins les députés seront favorables à cette réforme.
Mais alors, est-ce qu'on a une idée de qui va trinquer ? Qui sont les sénateurs et les députés qui vont être supprimés ? Est-ce qu'on a une idée à l'avance du redécoupage des circonscriptions ?
Non, on ne peut pas avoir à l'avance une idée du redécoupage des circonscriptions. Encore une fois, c'est une commission indépendante qui donnera son avis sur les prochains découpages. Ce qui est important de voir, si vous voulez, c'est qu'on va peut-être enfin mettre les circonscriptions en adéquation avec ce qu'est devenu la France du XXIe siècle. Hein ? On entend souvent, vous savez, cet argument, on va avoir de grandes circonscriptions, le député ou le va être hors sol. Moi, je ne comprends pas tellement en tant que constitutionnaliste cette expression de hors sol. Le sol des députés, c'est la nation. Les députés représentent la nation. Ils sont élus dans la circonscription, mais ils ne sont pas l'élu de la circonscription. L'élu du sol, l'élu du terrain, l'élu de proximité, si vous voulez, c'est le maire,
c'est le maire,
conseiller général. L'élu de la nation, c'est le député et le sénateur. Si vous ajoutez à ça que aujourd'hui, il me semble qu'on n'est plus autant de la carriole et que par conséquent, une grande circonscription, un député, un parlementaire peut parfaitement, dans une journée, aller d'un bout à l'autre, même d'une grande circonscription. Quand on pense qu'aujourd'hui, on fait les lois avec les civic tech, avec Internet, avec le numérique, on voit bien qu'il y a pour le député, même si sa circonscription est plus grande qu'aujourd'hui, les moyens d'être en contact avec leurs électeurs autrement que par une carriole.
Merci beaucoup, Dominique Rousseau, de nous avoir éclairé sur cette réforme.